Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors la pause fitness, ça démarre le mardi à 8h du matin. Aujourd'hui, on va parler de quelques petits sujets. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce que vous aviez prévu de faire. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire tout ce que vous aviez envie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, il fait froid. Ici, je m'entraîne à fond. J'essaie au maximum de vous répondre à vos questions que vous m'envoyez par email. J'ai coupé aussi un petit peu les messages audio parce que j'en recevais tellement que c'était très compliqué de ne pas prendre du retard, en fait. Et puis, malheureusement, il y a des personnes qui me posaient des questions qui étaient obligées d'attendre un petit peu trop longtemps. Donc, j'ai préféré remettre la boîte mail en service pour les questions. Donc vous avez toujours le lien sur mon site. Alors beaucoup de personnes écoutent le podcast et sont jamais allées voir mon site. Je vous recommande d'aller le voir. Vous avez beaucoup de, bon, je vais pas dire des bonus, mais déjà vous avez de la lecture et vous avez des vidéos qui ne sont ni sur YouTube ni ailleurs d'ailleurs. Donc vous avez le lien et puis c'est de toute façon vous connaissez, hein, c'est www.fitnessmiss.fr et vous avez accès à tout le contenu. Bon. Dans ce podcast, je voulais vous parler d'une petite chose qui m'a un article que j'ai vu sur le site de psychologie psychologie.com, quelque chose comme ça, qui est faire une thérapie pour maigrir, voir un psy et maigrir. Alors, j'ai surligné quelques petits passages, dont un qui s'appelle comment agissent les émotions sur notre poids. Alors, elles peuvent pousser à manger davantage, accentuer l'appétit pour le gras et le sucré, décourager l'activité physique ou provoquer un stockage de graisse. Ces quatre mécanismes observés par Stéphane Clergé sont susceptibles de se cumuler. Et l'enfant devenu adulte va les pérenniser à son insu. Pour s'en libérer, souligne-t-il, il sera nécessaire de repérer les différentes émotions à l'origine des prises alimentaires, puis d'analyser chacune d'elles. Il ne s'agit pas de remplacer les émotions pénibles par d'autres positives, prévient Gérard Apfeldorfer, il a un nom, mais de les accueillir sans jugement. En les vivant pleinement, elles se dissipent d'elles-mêmes et n'ont plus besoin d'être étouffées par la nourriture. Comment agissent les émotions sur notre poids, etc., etc. Bon, bref, voilà, vous avez un petit peu le tableau. Alors, moi, j'avais juste envie de revenir sur quelque chose qui, je pense, parlera un petit peu à tous ceux qui s'intéressent à la sphère psycho-mentale liée à la prise de poids, liée à tout un tas de choses, d'ailleurs. On entend souvent le mot « acceptation ». L'acceptation, il faut partir du principe que c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire que l'acceptation des émotions négatives, c'est reconnaître, par exemple, que on a un mal-être X ou Y, ou que je sais pas, on a pas envie de faire telle chose, mais on se le cache un petit peu, on veut pas le reconnaître, on a un discours qui est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on pense au plus profond de nous, et donc du coup ça crée un petit bug, on va dire, ça crée même parfois une fatigue, parce qu'il y a un épuisement, en fait, nos actions du quotidien vont dans un sens, et puis notre fort intérieur va dans l'autre sens. Le côté acceptation, moi je trouve ça très compliqué, c'est-à-dire que de dire à une personne, bon, c'est parce que tu n'as pas envie de rencontrer un homme que du coup tu manges beaucoup pour te rendre pas séduisante, etc. Il faut que tu acceptes ça. Donc ok, ça peut être une piste, mais c'est compliqué parce que ça donne pas vraiment de solution. Bon, les solutions qu'il peut y avoir pour ça, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est la méditation de pleine conscience, etc., pour s'en rendre compte. C'est quelque chose de très bien, la méditation. J'en ai parlé, je pratique, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Mais Moi, je pense que la stratégie, c'est non seulement de se mettre sur pause, en fait, de réussir à comprendre ça. Donc, le côté acceptation, je suis d'accord. Mais c'est une acceptation qui doit conduire à une action. C'est-à-dire que, OK, une piste, c'est-à-dire que je sais pourquoi je grossis, parce que je sais pas, tel ou tel problème émotionnel, et donc du coup, je compense par la nourriture. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, sous forme de 5 minutes peut-être aujourd'hui, pour aller dans le sens finalement de ma, on va dire, de ma remise en forme ou de en fait solutionner un problème. Moi, je pense que l'idée et le concept un petit peu de la réussite, si je peux appeler ça comme ça, ou en tout cas de se sortir des orties, c'est de résoudre un problème, c'est-à-dire de prendre conscience, non pas qu'on a un problème par rapport à d'autres personnes qui n'en ont pas. Parce que ça, c'est la stratégie de la comparaison négative, j'appelle ça, moi. Comme j'en parlais dans d'autres épisodes, moi, la comparaison peut être bonne quand elle est positive, mais la comparaison négative, c'est un petit peu le pessimisme mal utilisé, c'est-à-dire que on perçoit les autres avec un niveau de réussite, que ce soit physique ou autre, supérieur au nôtre, et on est dans une acceptation... on est dans une acceptation sans comment dire, sans moyen d'agir. C'est-à-dire que on se donne pas les moyens d'agir. On accepte la fatalité. Voilà, je trouvais pas mes mots. Il est un peu tôt ce matin. J'ai dormi assez peu cette nuit. Donc, on accepte une fatalité. Et donc, du coup, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'au début, ça peut être assez négatif sur l'humeur, etc. Mais avec le temps, ça peut conduire à un raisonnement, finalement. Étant donné qu'on a accepté cette différence, on peut commencer à devenir méchant, jaloux, critiquer et rentrer dans le jugement par rapport à ceux qui y arrivent en se trouvant plus ou moins des excuses qui sont pas rationnelles. Et moi, je pense que l'acceptation doit être au même moment que la décision de passer à l'action. C'est-à-dire que l'acceptation, c'est plutôt dans le moment présent, c'est-à-dire on accepte, ok, on se détend, certains vont appeler ça le lâcher prise et tout ça, mais il faut que naisse de cette action, enfin de cette inaction plutôt, on va dire, de ce lâcher prise, il faut qu'il naisse immédiatement une piste d'action. Parce que moi, je pense que l'inaction, que le lâcher prise sur une problématique qu'on ne chercherait pas à résoudre, peut conduire à de l'anxiété. Et je ne pense pas qu'une personne qui ne se trouve pas bien dans son corps aujourd'hui, si elle accepte qu'elle n'est pas bien dans son corps aujourd'hui et qu'elle ne cherche pas à prendre de solution, à appliquer une solution à un protocole ou autre, je ne pense pas qu'elle va aller mieux. En fait, elle va juste l'accepter, mais c'est pas fou. En fait, elle fait pas le pari de s'améliorer. Donc, encore une fois, les émotions sur le tour de taille, ok. On les trouve, on les identifie à l'aide de je sais pas quel moyen psychologique, ou alors on fait de l'automédication, entre guillemets, de l'autothérapie en se formant soi-même sur les sujets. Alors on va lire des ouvrages de qualité sur le sujet, on va essayer de voir le maximum de conférences, etc. Bref, d'essayer de faire sa propre analyse pour ensuite pouvoir trouver une action pour s'en sortir. Moi, je suis très dans l'action, c'est-à-dire que je suis convaincu que le lâcher prise est très important, que je suis convaincu que l'acceptation est très importante si elle est couplée à un plan d'action futur. Voilà. Deuxième chose, il y a eu beaucoup de. Alors là, on passe sur la sphère entraînement. Il y a eu beaucoup de contenu sur les morphologies, les longueurs des membres, etc. On n'est pas tous égaux, ce qui est vrai, par rapport au mouvement de musculation. Donc là, vous avez vu la transition radicale, hein, on passe du psycho à l'entraînement directement. Mais on parle beaucoup des membres longs, par exemple, pour le risque de blessure, les différences de force. Alors je sais plus qui disait ça, mais à une personne, alors je crois que c'est Michael Gundil qui en parlait dans un vieux podcast, il disait quelle est la plus forte des deux personnes si l'une a une course, par exemple, au développé couché de 20 cm, donc une amplitude de 20 cm, et un autre gars qui a une amplitude de 40 cm parce qu'il a les bras plus longs. Eh ben, quel est le plus fort des deux si les deux portent 100 kilos? On a envie de dire que, enfin, si un porte 120 et l'autre porte 100 kilos, on a envie de dire que c'est celui qui porte 120 qui pousse le plus lourd, mais en fait, il pousse sur moins, sur déjà d'une sur une moins longue distance, mais beaucoup de personnes oublient un facteur, c'est que la longueur des membres accentue le déplacement, c'est-à-dire que on va devoir déplacer plus sur une plus grande distance la charge, mais il y a autre chose que les gens ne précisent pas, c'est que des personnes qui vont avoir par exemple des fémurs longs pour le squat, donc du coup une amplitude assez grande, des avant-bras très longs ou des bras tout courts très longs pour le développé couché et tout, donc ils vont avoir, ou même pour les tractions, vont avoir des amplitudes assez longues, mais ce qu'ils ne prennent pas en compte, au-delà du niveau de force qui peut différer si on regarde purement le poids sur la barre ou le poids sur les machines, il y a également un autre facteur qui est le temps sous tension. Imaginez que deux personnes fassent exactement la même cadence, donc la même vitesse de répétition au développé couché, mais qu'une a des avant-bras deux fois plus longs que son voisin. Même s'ils vont à la même vitesse de déplacement de charge, celui qui a le plus de longueur de membre va être plus longtemps sous tension. Donc potentiellement, si vous vous entraînez avec un ami qui a les bras courts, par exemple, ou les jambes plus courtes que vous, sur certains mouvements, il peut vous dire « sois explosif, va plus vite et tout » et vous épuisez plus. C'est tout simplement en fait que la vitesse, le temps total d'une répétition est plus longue que celle de votre voisin qui a les membres courts. Donc du coup, votre temps sous tension, il est plus important. Donc vous avez un épuisement, une intensité pour le même nombre de répétitions qui est supérieure. Et à partir de là, déjà, on peut commencer à identifier certaines différences. Donc, bon, bien sûr, là, je parlerai pas, il y a le risque de blessure, etc. Il y a également le recrutement musculaire qui peut différer selon la longueur des membres. Mais il y a également ce facteur de temps sous tension qui, si on est longiligne, grand avec des longs membres surtout, enfin, on peut être grand avec des membres plutôt courts, mais si on a un buste très long, mais si on a des membres longs, donc par exemple au squat ça se voit assez facilement, si vous avez les fémurs longs, vous allez avoir tendance à pencher relativement en avant quand vous mettez de plus en plus de poids pour compenser finalement votre équilibre. Si vous couplez ça avec des chevilles hyper tendues, etc., bon voilà, vous avez une amplitude qui va être on va dire plus longue que votre voisin qui aura des petites jambes. Et en plus de ça, bon, ce fameux déséquilibre, ce fameux risque plus important de blessure et ce recrutement musculaire différent. Donc à partir de là, vous pouvez déjà, encore une fois, je reviens au premier sujet, il y a une forme d'acceptation. Ok, je fatigue plus vite à même poids que mon voisin parce que mon temps sous tension est plus élevé. Parce que si enfin bon voilà, je vais pas vous refaire le schéma et écoutez bien, mais vous allez voir que si vous prenez mathématiquement tous les paramètres vitesse, etc., à partir du moment où la course est plus longue, forcément le temps sera plus long, à moins que vous alliez plus vite que celui qui a des membres courts. Mais le but c'est pas ça, le but c'est de s'entraîner normalement, quoi, normalement, correctement. Donc la course effectuée augmente, la fatigue est donc plus prononcée. Moi c'est ce que j'avais noté, je l'ai pas vu en fait exprimé sous ces termes-là, même si je pense que certains l'auront compris, et là maintenant ça va leur paraître évident, mais je l'avais pas vu exprimé sous des termes comme ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler, vous en parler dans ce podcast. Dernière petite chose avant de passer à la suite de ma journée. Beaucoup de personnes ont regardé des vidéos sur YouTube d'un médecin qui avance un peu dans l'âge, qui parle de chrononutrition, etc. Et je vois que ces vidéos font un petit peu le buzz, étant donné que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça, et notamment par rapport à une seule chose qui est le fromage. Alors, les recommandations de cette personne seraient de manger du fromage le matin pour tout un tas de raisons, mais notamment en termes d'assimilation et de reconstruction cellulaire au niveau de la nuit qui va suivre, etc., etc. Bon, cette histoire de fromage, moi je la prends pas aussi complexe que ça. Sachez une chose, c'est pour toutes les personnes qui avaient commandé, qui avaient acheté mon ouvrage sur la perte de graisse, ils avaient vu déjà depuis 2013 que moi je m'autorisais du fromage à certains moments de la journée et que j'étais pas contre cet apport alimentaire-là dans la limite du raisonnable et de la dose. C'est-à-dire que je ne voyais pas quel était l'impact en termes de... Alors, il faut bien faire la différence entre manger du fromage avec du pain à chaque fin de repas et manger son petit morceau de comté à un repas, que ça soit le matin, le midi, etc. C'est 40-50 grammes maximum. Je voyais pas vraiment le problème. Après, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir amalgame entre il recommande de manger des produits laitiers et il recommande de manger du fromage. Le fromage étant un produit laitier, mais moi, je fais une grande différence entre le fromage, les yaourts, le fromage blanc, la crème fraîche, le lait, les protéines en poudre, etc. Pour les personnes qui sont sensibles au niveau digestif par rapport au lactose, au fromage et tout ça, moi, je fais partie de ces personnes-là. C'est-à-dire que je suis pas super bien adapté aux produits laitiers. C'est pour ça que je les ai quasiment tous supprimés de mon alimentation, sauf les protéines en poudre et sauf le fromage, mais pas n'importe quel fromage. J'évite le lait cru et j'évite les fromages, vous savez, un peu crémeux. Moi, je fais plutôt un petit morceau de comté, voilà, de temps en temps, un peu le week-end, un petit peu dans la semaine, par exemple, le matin au petit déjeuner, ça peut m'arriver. Mais, bon, ça, c'était la partie lifestyle, je vais y arriver. Mais le fond du message que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est que finalement, observez bien quelque chose dans toutes ces modes-là. En fait, toutes ces modes-là... Alors, il y a eu la mode des glaces. À un moment donné, j'ai reçu des messages sur des glaces. La glace, de manger de la glace. Alors, j'ai cru que c'était une blague, mais apparemment non. Après, il y a eu le fromage. Il y a eu les sauces aussi. À un moment donné, certaines sauces, je sais pas, enfin, les plus anciens s'en rappelleront. Enfin, voilà. Et vous noterez qu'à chaque fois, il y a le buzz quand c'est des aliments plaisir. C'est-à-dire que les gens retiennent que ça. Ils vont retenir, bon, on peut manger du fromage, on peut manger de la glace, mais ils oublient tout le reste. Je pense que chaque personne qui va avoir ce genre de recommandation part du principe que tout le reste est parfait. Parfait pour vous, parfait, on ne sait jamais parfait, mais en tout cas parfait par rapport aux connaissances d'aujourd'hui, par rapport à ce que pourrait être une bonne alimentation. Et à l'inverse, les personnes préfèrent se dire, ok, le fromage, c'est pas si mal, mais ils ne changent pas le reste de leur alimentation. Et c'est là où il y a le problème. C'est que, pour moi, tout ça, ce sont des arguments un petit peu comme comment maigrir sans faire de sport. Vous voyez, ça va plaire. Mais par contre, comment maigrir en vous affamant, en sautant un repas et en faisant beaucoup de sport? Là, personne ne va lire l'article parce qu'en fait, tout est dans le titre. Il y a toujours ce côté où, quand il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable, en fait, c'est comme si je vous disais couper du métal avec un couteau à beurre. Vous voyez, c'est pas raisonnable. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est que le fromage, c'est pas quelque chose qui va vous mettre en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est quelque chose qui peut être inclus dans une stratégie alimentaire X ou Y. C'est pas du tout... parce que les gens aiment bien les mono. Alors moi, mon terme monodiète, ça, c'est pas monodiète comme pourraient le dire les naturopathes, etc., où on mange que le même aliment. Pour moi, quand je dis monodiète, c'est une diète qui est la même tout le temps. C'est-à-dire que bon, moi je mange poulet, brocoli, riz blanc. Voilà, ça c'est ma diète. Les gens, il y en a qui ont cette diète-là, ils vont dire moi je mange comme ça, donc je reproduis ça au quotidien. Et ben moi je leur dis ben tu sais cette diète-là au quotidien. Même si elle te paraît saine, même si elle l'est pendant un jour ou deux, eh ben, plus tu vas passer de semaines à manger comme ça et plus elle va être pénalisante. Pourquoi ? Pour toi, parce qu'il y aura un manque de variété. Donc, tu tombes dans une forme de monodiète, c'est-à-dire que tous les jours, tu as les mêmes aliments et donc, du coup, c'est potentiellement, c'est pas la bonne stratégie. Et je sais que beaucoup de personnes réfléchissent comme ça, c'est-à-dire que pour eux, la nutrition est un problème, ils veulent la solutionner en trouvant des réflexes à avoir, c'est-à-dire bon, le matin c'est tel aliment, le midi c'est cela et le soir c'est cela et collation c'est ça. Et en fait, ils veulent le plus vite possible trouver la bonne solution, par exemple pour prendre du muscle ou pour perdre du gras, comprendre et dire j'applique ça, ça marche, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Même si c'est séduisant de penser comme ça, il faut une forme de variété dans les aliments. Pourquoi ? Parce que on ne sait jamais comment on tire les nutriments, les vitamines, les zut, les minéraux, les oligo-éléments et tout des aliments qu'on consomme. On n'en sait rien. On peut bien se rendre compte, par exemple, que si on mange que des protéines végétales, pour certaines personnes, elles vont se sentir un peu plus fatiguées au bout d'un moment. Et la viande, ça va mieux leur réussir. Donc bon, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent à tout le monde de manger de la viande? Non. Et elles disent que moi, par exemple, la viande me réussit mieux que le soja. Bon. Et ça, c'est revenir un petit peu au début de cet épisode en faisant une forme d'acceptation, c'est-à-dire, ok, cet aliment ne marche pas pour moi, donc j'en essaye un autre. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à progresser et qu'on met de la variété. Bref, je m'arrête ici pour cet épisode. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour un mardi matin à 8h. Alors, sachez une chose, les vidéos du jeudi soir à 18h reprennent normalement cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai fait le tournage des réponses, donc c'est des petites vidéos 2, 3, 4, 5 minutes maximum où je réponds aux questions que vous me posez en commentaire YouTube. Donc ça redémarre ce jeudi ou jeudi prochain, je sais pas, ça sera en fonction de Cyril. Et deuxième chose, ce week-end j'ai sorti le programme pectoraux où je suis revenu au bar que j'avais avant ma blessure. Vous avez tout mon programme que je fais à domicile, que ça soit à l'écrit mais aussi en vidéo, et que je vous montre. Et il y a vraiment une forme de cours, on va dire, sur le placement des coudes, le placement des bras, le placement des mains, la cadence des répétitions, enfin tout un tas de choses, comment monter lourd, comment prendre de la force, comment avoir des pectoraux plus esthétiques. Enfin, j'essaie vraiment de balayer large pour répondre le plus à vos questions. Ce programme est disponible avec la vidéo directement dans la description de ce podcast. Vous avez le lien, allez y faire un tour. Si c'est la première fois, vous allez voir que je vous mets des liens dans les descriptions d'épisodes. Et donc, si vous êtes intéressé pour le suivre, pas de problème, vous passez la barrière du site et vous pouvez le suivre, celui-là et tous les autres d'ailleurs. Et sinon, on se retrouve soit jeudi, soit mardi prochain pour le prochain épisode. Salut.